de l'actu,
des infos,
du local,
de la culture,
de l'aventure,
du fantastique,
de la musique,
un florilège
à l'heure du déj,
pour ne rien rater de ce qui se trame près de chez vous.
Une rubrique
ni pêle-mêle,
ni
tout.
Bienvenue à tous et à tous dans Ni pêle-mêle ni fourre-tout, notre rubrique éclectique des actus locales et culturelles de la vallée. Alors que se passe-t-il près de chez vous cette semaine? Irez-vous au concert? Chasser les papillons? Cueillir des champignons? Écouter les oiseaux? Danser en festival? Voir des arts de la rue? Chanter dans une chorale? Bref, quelles sont les infos à ne pas rater pour répondre à cette question brûlante? J'ai le plaisir d'accueillir Claudio et Robert Serre qui sont venus nous parler de leur livre « La tour de Cré, des pierres et des hommes » qui va bientôt sortir aux éditions Piégrane. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la naissance de ce projet de livre? Et parce qu'il me semble que vous aviez déjà écrit sur le sujet. Qui veut commencer?
Bon.
Et c'est Robert.
En effet, je ne sais plus exactement la date parce que j'ai oublié de la regarder. On avait publié tous les deux une brochure qui avait 75 pages à peu près, sous le titre « La tour de Cré ».«
Forteresse et prison ».«
Forteresse et prison »,
qui fait déjà la répartition dans le temps des usages divers de la tour, qui au début donc n'était qu'une partie du château féodal. Ça c'était il y a quand même à peu près une vingtaine d'années.
Mmh.
Et à l'époque déjà, j'avais un peu bousculé mon ami Claude pour qu'on puisse faire vraiment un vrai livre. On avait les matériaux, on savait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'avaient jamais été dites, on savait qu'il y avait des choses qui avaient été dites mais qui étaient fausses, donc ça paraissait indispensable d'approfondir les choses et de le faire savoir.
Vous voulez compléter, Claude?
Oui, alors pour moi, ce livre correspond à l'achèvement d'un cycle d'études sur la tour que j'avais commencé en 1983 avec Jean-Claude Alcamo et Jean-Noël Couriol, qui s'était traduit par la publication d'une première brochure en 1984, et puis d'une seconde en 1989. Et ensuite, donc, celle de 2005 a été écrite avec Robert. Par ailleurs, en dehors des brochures, donc, j'avais publié, en particulier avec Jean-Claude Alcamo, sur des revues scientifiques, comme la Société française d'archéologie ou la revue Dromoise, et j'avais organisé deux expositions à la Tour, dans les années 90 et 2006, la dernière, je crois. Donc, le livre reflète un peu toutes ces études du passé, mais il a été considérablement enrichi grâce à Internet, et particulièrement à Gallica, le site numérique de la Bibliothèque nationale de France, qui est un puits absolument incroyable d'informations et qui ont permis vraiment d'approfondir tous les aspects du sujet que j'ai très élargi à partir d'un principe de base qui guide le livre. Si le bourg castral de Cré était considéré par un historien du XVIe siècle comme le plus important du Dauphiné, c'est donc qu'il y avait une activité économique très importante de la ville de Cré, puisqu'elle est située au croisement de deux routes très importantes, la route Vallée du Rhône, Italie, que j'appelle la route des militaires et des ecclésiastiques, et la route nord-sud, la 538 actuelle, qui relie Lyon à Marseille et qui doublait celle de la vallée du Rhône, qui n'était pas toujours praticable, alors que celle-ci était montagneuse et permettait le passage des convois de mulets.
C'est d'ailleurs l'entrée dans ce livre plus long. Vous vous êtes occupé de rédiger une des deux parties, c'est ça?
La première partie, oui.
Voilà.
Qui fait à peu près les deux tiers du livre.
C'est ça. Créer ces deux châteaux au croisement des deux routes et en limite des deux comtés.
Des deux comtés, oui. En plus, il se trouve que la frontière entre les deux comtés était aux limites de Grès et d'Eure.
Donc vous vous êtes penché, vous, Claude, sur cet aspect-là ?
Sur l'histoire médiévale,
oui.
En remontant quand même jusqu'au résultat des premières fouilles faites à Grès au moment de la ligne TGV et qui remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Bon, on peut dire que Grès, à l'époque, est un cas assez classique de bourg comportant deux châteaux, un château laïque appartenant au comte des Valentinois et un château ecclésiastique appartenant à l'évêque de Die. Mais l'évêque de Die l'a obtenu d'une première famille seigneuriale qu'on appelait les Arnauds, qui se sont probablement installés dans la deuxième moitié du XIe siècle. Et cette transmission à l'évêque s'est faite en 1145, au moment où l'un des membres de la famille Arnauds part à la deuxième croisade. Et ensuite, donc, les comtes de Valentinois ne cesseront de vouloir récupérer le château qu'Arnaud de Grès avait transmis à l'évêque de Die. Et cela durera jusqu'en 1356, où Grès appartient en entier au comte de Valentinois et de Diois, puisqu'ils sont aussi accaparés une grande partie du Diois. Alors, cela a eu de l'influence sur l'architecture du monument, puisque c'est ce qui donne un caractère assez exceptionnel à l'édifice, c'est que l'on part d'un château comportant trois tours et une cour intérieure pour arriver par surélèvement de la part des comtes, une fois qu'ils ont acquis l'ensemble du château, et la pose d'une toiture en terrasse, ce qui donne l'aspect actuel d'une seule tour. Mais en fait, elle est composée de trois tours, plus d'un très gros mur qu'on appelle le manteau ou le mur bouclier, du côté de l'attaque. Donc c'est un édifice complexe et très particulier, qui en fait sa valeur.
Est-ce que Robert, vous voulez prendre la suite pour cette seconde partie ? La tour prison, 17e, 20e siècle ?
Oui, alors, en effet, disons que cette partie-là commence au moment où le roi Louis XIII et son ministre Richelieu passent par Grès et ordonnent la démolition du château, qui ne sera pas effectuée totalement, puisque la tour va subsister, essentiellement parce que le prix pour la démolir aurait été beaucoup trop élevé pour les finances royales ou d'autres. Et donc, cette idée-là a été abandonnée. Et c'est essentiellement ça qui a sauvé notre belle tour. Alors, à partir de ce moment-là, toute la période de la féodalité, donc, s'est achevée. Et la tour va... On se demande un moment à quoi elle peut servir, et puis finalement, on s'aperçoit qu'elle pourrait fort bien servir de prison. Donc, c'est le rôle qu'elle va jouer pendant environ deux siècles. C'est-à-dire qu'on va commencer par enfermer quelques prisonniers espagnols que Louis XIII, au cours de ses guerres en Espagne, a pu ramasser. Et puis, arrive la période où ce sont les protestants qui vont, pour l'essentiel, occuper la prison. En effet, l'édit de Nantes accordé par Henri IV, ça n'a pas l'air de plaire tant que ça à Louis XIII. Et donc, petit à petit, il va tout faire pour diminuer l'influence des protestants. Et il est obligé, malgré tout, de pas trop de ne pas aller trop loin, ce sera encore le cas avec Louis XIV, parce qu'ils sont, disons, alliés avec les princes protestants allemands, et ils ne veulent pas trop les fâcher. Alors, donc, revenons à Louis XIII, il va enfermer à la tour
nombreux, un grand nombre,
et ils vont vivre dans des conditions assez difficiles. La plupart du temps, ça n'est d'ailleurs qu'une étape dans leur périple, puisque après, ils vont être la plupart du temps condamnés aux galères en particulier. Il y en a un grand nombre qui vont ramer donc, sur la Méditerranée en général, après les condamnations dont ils sont l'objet. Ensuite, à l'époque de Louis XIV, les menaces contre les protestants deviennent de plus en plus dures. Toute une série de mesures sont prises. Interdiction de profession, par exemple les sages-femmes sont concernées, il y en a qui se retrouvent à la tour. Interdiction de mariage mixte, enlèvement d'enfants qu'on envoie dans les couvents et autres et qu'on baptise catholique, évidemment. Démolition des temples, celui de Cré, par exemple, sera démoli à ce moment, dans cette période-là. Le culte est interdit en dehors des murs, d'abord du temple, ensuite des locaux où il continue à se pratiquer plus ou moins, mais ce sera la plupart du temps au désert qu'il va pouvoir continuer. Bon, enfin, sur les protestants, donc toute une série de mesures très répressives. Et puis, après, on a des administrateurs locaux, consuls et autres de communes, et on arrive à la période des détenus par lettre de cachet. Alors, on a donc là des familles qui, pour se débarrasser, par exemple, de leur fils un peu trop dépensier, qui aime un peu trop la bouteille, enfin des choses de ce genre-là, pour le punir et s'en débarrasser surtout, il y a souvent des questions d'héritage aussi, on le fait enfermer par lettre de cachet. Alors il y a également des ecclésiastiques, parce qu'ils ne se sont pas conduits selon les règles de leur religion, et donc, à la demande de leurs autorités, ils sont enfermés là par lettre de cachet. Bon, les conditions de vie sont là aussi particulièrement difficiles. Ils sont, bien entendu, ils sont gardés. Alors pour les garder, il y a des moments, un moment où ce sont les gens de Cré qui sont obligés d'aller périodiquement monter la garde à la tour pour empêcher que ces gens s'enfuient, s'évadent. Et puis, Louis XIV a un problème à ce moment-là, c'est qu'il fait beaucoup de guerres, et que dans ces guerres, il y a des blessés, des malades et autres, enfin, des gens qui sont invalides, et donc il a l'idée de faire construire à Paris un hôpital où on pourra les accueillir lorsqu'ils ne servent plus à rien. Je veux dire par là, lorsqu'ils ne serviront à rien sur les champs de bataille. Donc, ces invalides remplissent très très vite cet hôpital à Paris, qui existe toujours, hein, c'est ce qu'on appelle les invalides, tout simplement. Et donc, l'idée surgit d'aller les utiliser en province, un peu partout. Donc, beaucoup de sites comme celui de la Tour de Cré, qui est une prison, vont accueillir ces invalides qui vont servir de gardiens dans la tour. Sous la période révolutionnaire, il se passe pas mal de choses. On a des prisonniers d'un camp, puis après les prisonniers d'un autre camp. Sous le directoire, et puis sous le consulat, et ensuite sous l'empereur, là, les conditions sont très dures, parce que plus personne ne veut s'occuper de la tour, plus personne ne veut faire de dépenses, et donc elle tombe un petit peu en décrépitude, et puis le personnel qui est utilisé pour monter la paille où ils couchent les détenus, ou le pain qu'on leur donne à manger chaque jour, la nourriture, ça se limite à peu près à ça. Les locaux dépérissent, il n'y a pas de crédit. Bon. Les réparations ne sont pas faites correctement, ou c'est du rafistolage, mais là-dessus, Claude est plus calé que moi. Et les hommes souffrent beaucoup. En plus de ça, les conditions d'hygiène sont épouvantables. Il y en a même qui sont nus parce que leurs habits, à force de se coucher et tout sur les dalles de pierre, se sont bien usés. Donc il y en a qui se promènent tout nus. En 1832, là d'ailleurs, c'est le moment où on se pose déjà la question, au fait, à qui appartient la tour ? Alors chacun la voudrait pour lui à certains moments ou la voudrait pour l'autre quand ça peut provoquer des dépenses. Ça, on retrouvera ce genre de raisonnement. Alors on arrive ensuite à la Deuxième République en 1848 et là j'ai écrit un autre livre là-dessus d'ailleurs en 1851. Il y a une insurrection. Particulièrement importante dans la Drôme et dans la région de Cray, contre le coup d'État que vient de faire Louis-Napoléon Bonaparte, qui l'année suivante deviendra l'empereur Napoléon III. Alors ici, c'est le moment où les records d'effectifs sont largement battus. Dans le meilleur des cas, les autorités du département disaient qu'on pouvait loger 150-200 personnes dans la tour. Eh bien là, en janvier 1852, il y a 457 détenus dans la tour. On a le nombre exact parce que chaque jour, il y avait un comptage qui était fait par le concierge de la tour le matin et le soir. Alors ces détenus vivent dans des conditions difficiles. Petit à petit, l'effectif va baisser parce qu'il y aura des libérations, mais il va quand même rester important. Et donc, pour s'occuper, se distraire un peu, les détenus griffonnent sur les murs des dessins, des textes, où ils racontent le sort qu'ils ont connu, ou des formules un peu en slogan, sur la liberté en particulier. Et beaucoup de ces dessins, de ces graffitis, ont disparu, parce que depuis, il y a eu beaucoup de peintures ou autres dans la tour, mais il y a des endroits au perché, où personne ne pouvait aller, et où il subsiste, et des pièces qui ne sont plus accessibles pour des raisons de sécurité, elles sont fermées, et donc là aussi, les graffitis ont subsisté. Alors, dans notre livre d'ailleurs, on trouve un grand nombre en reproduction. Après 1852, ça dure encore un petit moment, l'usage de prison, mais... sinon la tour s'est vidée petit à petit, il n'y a plus personne. C'est la guerre de 70 qui va ramener quelques occupants, en particulier des troupes qu'on cherche à loger. Et puis on se pose la question une fois de plus de savoir à qui appartient la tour, parce que maintenant personne ne sait qu'en faire. Et finalement, en 1877, la tour est classée monument historique, ce qui quand même lui donne une certaine valeur. Les domaines veulent vendre la tour, la vente doit se faire aux enchères. Ceux qui vont participer se réunissent et mettent au point leur tactique de façon à être les premiers enchérisseurs et à obtenir l'acquisition de la tour. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme ça, parce que s'ils font une première offre, après à la deuxième bougie, il y a un crétois, un conseiller municipal de Cray, M. Maurice Chabrière, qui surenchérit. Alors, c'était un conseiller municipal quand même, et donc ils sont tous particulièrement furieux. Maurice Chabrière dit, mais si je surenchéris, c'est pour vous l'offrir. Et il propose de l'offrir. Mais donc, comme les représentants de Cray sont très mécontents de l'attitude de Chabrière, ben, ils refusent la donation. Et Chabrière va donc rester propriétaire jusqu'à ce que la ville, tout récemment, enfin relativement récemment, l'achète. La tour, en effet, il y a plusieurs expériences qui sont tentées pour savoir qui va assurer la régie de la tour, jusqu'à ce que maintenant, une société, Kléber-Roussillon, se voit attribuer cette fonction. Voilà, bon.
J'ai une question plus personnelle. Tous les deux, vous semblez très attachés à cette tour. Pourquoi ? Est-ce que vous pourriez me dire ce qui fait que vous avez passé autant de temps et que vous en passez encore à vous pencher sur le destin de cette belle tour ?
Alors, disons que dans mon enfance, lorsque l'on partait en vacances avec mes parents et qu'on visitait des châteaux, soit entiers, soit en ruine, et aussi des abbayes, j'aime beaucoup les abbayes cisterciennes, par exemple. Donc, je me sentais très bien dans ce genre d'architecture, disons. Et puis, il se trouve que, en 1969, après avoir découvert la Drôme, j'ai racheté les ruines d'un château dans la région. Et donc, la tour de Craye m'a vite intéressé. Et c'est lors d'une conférence de Jean-Claude Alcamo et Jean-Noël Courial, que je suis allé les voir à la fin de la conférence et que je me suis joint à eux pour étudier le monument. Et j'ai continué jusqu'à maintenant.
Et de votre côté, Robert ?
Ah oui, alors, Claude a montré son amour de la tour, qui n'est pas d'aujourd'hui. Si vous voulez, c'est le reflet un petit peu du sous-titre de notre bouquin, des pierres et des hommes, ce qui vraiment l'a attiré, non pas qu'il soit désintéressé des hommes, mais c'est quand même l'architecture, les pierres. Bon. Moi, ce sont plutôt les hommes qui m'ont amené à m'intéresser à la tour. J'ai écrit d'autres livres dans lesquels on a des prisonniers qui se retrouvent en particulier à la tour. Tout cela m'a amené à beaucoup travailler sur les archives de Craye, mais également du département, et puis à Grenoble, à Lyon ou à Paris. Et c'était donc les détenus de la tour, leurs gardiens, en fait, tous ces gens-là qui m'intéressaient. Et évidemment, leur vie dépendait aussi des pierres. Hein. Donc, des pierres et des hommes, oui, mais tout est lié. De même que les graffitis, parce que quand j'ai fait le recensement complet, ça m'a pris pas mal de journées avec ma lampe électrique, là, j'ai commencé, personne pratiquement n'avait s'était intéressé vraiment à ces graffitis. Bon, j'ai répondu à peu près à vos questions,
ouais,
il me semble.
Tout à fait. Bien. Alors voilà, on arrive à la fin de l'émission. Comment peut-on se procurer ce livre et puis quand sort-il exactement ?
On peut se le procurer actuellement en remplissant les bulletins de commande que nous avons un petit peu distribués. Et puis, on le trouve également dans le journal local, le Crétois. Et ce qui fait que ces bons de commande peuvent nous être envoyés et les adresses sont données dessus. Maintenant, si on nous rencontre, évidemment, on pourra répondre aux demandes. On peut aussi accessoirement nous téléphoner peut-être, mais enfin voilà.
J'ai oublié. Donc il sera dans les magasins, donc dans les librairies, la FNAC, etc., à partir du 8 ou 9 décembre.
Très bien.
Voilà.
Je vous remercie tous les deux d'être venus.
Merci.
Robert Serre et Claudio, merci d'avoir monté les escaliers. C'est pas aussi haut que la tour de Craye, mais tout de même, le studio de Radio Saint-Ferréol est niché tout en haut de la maison des associations. Donc un grand merci à vous deux. C'était Sarah à l'animation et à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission demain, mardi à 8h ou bien en podcast sur notre site radiosaintfé.com. Rubrique Nos émissions, ni pêle-mêle, ni fourre-tout. Bonne semaine.